Voilà, je tiens à mon tour à remercier les organisateurs de cet extrêmement intéressant et riche et foisonnant colloque. Vous aurez noté que le titre a légèrement changé. Il s'agit, je suis désolé, mais les sources sont plus ou moins les mêmes que celles que j'envisageais pour la présentation initiale. Simplement, prenant connaissance des développements de notre colloque, de nos travaux, j'ai donc résolu de resserrer un petit peu ma présentation, la resserrer en direction du commentaire et du genre du commentaire, en particulier du rapport qui peut subsister entre commentaire et philosophie, j'y reviens, et j'ai souhaité aussi donner un tour peut-être plus comparatif à mon propos. Ce que je vais faire ici s'apparente à un divertissement, le titre le mentionne ici. C'est peut-être quelque chose qu'il ne faudrait pas faire, mais que je me permets de faire néanmoins devant vous. Concernant la langue, j'avais initialement prévu de m'exprimer en anglais, voyant que la plupart de nos amis de l'étranger, comme on dit ici, manient parfaitement le français, sont des polyglottes avertis. J'ai donc choisi de m'exprimer en français, ou plutôt d'une façon hybride, c'est-à-dire que les textes que je lirai sont en anglais et ma présentation se fera donc en français. Ce qui revient à dire, au fond, que le plat assez indigeste que je vais vous servir là, les morceaux sont en anglais et la sauce est en français. Je voudrais donc examiner avec vous certaines des modalités du rapport que peuvent entretenir le commentaire et la philosophie, ou le genre ou les genres du commentaire et la philosophie, non pas évidemment dans le sens où l'on commenterait la philosophie, enfin des modalités de commentaire de la philosophie par des philosophes ou des non-philosophes, mais plutôt envisager au fond la façon dont le commentaire peut suggérer et d'une certaine manière peut-être aussi façonner les cadres discursifs où se meuvent, où évolue, où se développe la philosophie elle-même, ou le discours philosophique. Et cet examen, en fait, je voudrais le conduire sur deux terrains extrêmement distincts. Le premier, qui n'est de loin pas celui de ma spécialité, tant s'en faut, c'est celui du Moyen-Âge latin chrétien, disons, pas seulement chrétien, mais enfin essentiellement chrétien. L'autre, c'est évidemment celui sur lequel je suis appelé à parler avec un petit peu plus d'autorité, c'est celui du bouddhisme indien, en particulier du bouddhisme tel qu'il se développe en Inde à partir du 2e, 3e et 4e siècle de notre ère. Et il s'agit, enfin il s'inscrit au fond, donc le propos d'aujourd'hui s'inscrit dans un projet peut-être plus large qui se situe malheureusement toujours dans les limbes de scolastique comparée ou de scolastique comparative. C'est un projet qui avait déjà été initié au fond par l'un de nos éminents prédécesseurs à l'école pratique des hautes études. Je pense à Paul Masson-Oursel qui avait écrit un certain nombre de textes, notamment un texte qui s'intitule « Scolastique » consacré précisément, et le sous-titre « Essai de philosophie comparée ». Plus proche de nous, évidemment, José Ignacio Cabezón s'est fendu d'un certain nombre de textes tout à fait intéressants sur la question. Donc le sujet, enfin ce titre de ce type de comparaison est plus ou moins dans l'air actuellement, et je suis particulièrement heureux qu'il le soit parce que je crois extrêmement, potentiellement extrêmement fécond. Il ne s'agit à aucun moment, en tout cas dans ma perspective, de comparer des productions textuelles, des productions intellectuelles, des arguments, des philosophèmes, des doctrines. Ça n'est certainement pas que la chose ne soit pas intéressante, mais à mon sens, il y a beaucoup plus intéressant à faire. Ce qui me paraît le plus intéressant, c'est probablement de chercher à comparer des cultures intellectuelles ou des pratiques intellectuelles, non pas en les plaçant côte à côte ou en regard, simplement à l'intérieur d'un dispositif comparatif classique, mais plutôt en se servant du mieux connu pour interroger et questionner le moins bien connu. Ou évidemment, le mieux connu, c'est la situation, évidemment les médiévistes penseront différemment, mais c'est la situation du Moyen-Âge latin chrétien. On a quand même une pléthore de sources, dont beaucoup sont inédites aujourd'hui. Le moins connu, et c'est le moins qu'on puisse dire, c'est la situation du bouddhisme indien, en particulier des grandes institutions scolaires et rituelles du bouddhisme tardif, où effectivement, si nous ne disposions pas du témoignage des pèlerins chinois, Xuanzang, Fashien, Yiting, etc. On saurait extrêmement peu de choses de ce qui s'y passait. Il faudrait chercher à le construire ou à le déduire des textes eux-mêmes, ce qui est extrêmement difficile et acrobatique. Donc en fait, je voudrais me servir ici et ailleurs d'un certain nombre de données qui procèdent du Moyen-Âge latin dans une perspective qu'on pourrait dire heuristique, c'est-à-dire chercher à éclairer, à poser des questions d'une certaine manière, pertinentes ou non, au fond l'avenir le dira, concernant des pratiques intellectuelles bouddhiques. Voilà. Je crois que le potentiel comparatif entre le Moyen-Âge latin et le bouddhisme indien, en tout cas ces segments du bouddhisme indien, est particulièrement riche, potentiellement fécond. Je pense évidemment au fait que tous deux articulent d'une façon ou d'une autre et d'une façon relativement constante la question des lumières naturelles de l'esprit humain, c'est-à-dire de ce que l'homme peut savoir ou connaître ou prétendre connaître par lui-même, avec évidemment un donné révélé qui est d'une importance tout à fait capitale et qu'il faut chercher à accommoder. Accommoder soit la raison humaine, soit l'agama, c'est-à-dire soit ce qui nous provient, ce qui fait autorité, le donné scripturaire ou révélé, la parole du Bouddha en l'occurrence. On se trouve dans les deux cas dans une situation où on a affaire, où on a à compter avec des classifications normatives du savoir. Parmi celles-ci, on pense évidemment à celle du trivium et du quadrivium, mais qui a été assez rapidement dépassée, manifestement, au Moyen-Âge. Et les grands centres dits universitaires bouddhiques possèdent également leur classification du savoir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se trouve d'ores et déjà et d'emblée dans une situation d'une certaine manière d'exégèse et de commentaire, dans la mesure où chacune des disciplines prévues au curriculum des moines, en l'occurrence, mais aussi des universités médiévales, possède ses propres autorités qu'il faut d'une certaine manière s'approprier par les méthodes de l'exégèse. Et cette situation favorise une culture de l'exégèse et du commentaire. Un autre aspect qui me paraît tout à fait intéressant, c'est que dans les deux cas, l'immense majorité des protagonistes sont des clercs. Alors évidemment, tous les protagonistes de la philosophie médiévale au XIIIe ou XIVe siècle ne sont pas, n'appartiennent pas au clergé régulier, mais ils sont en tout cas des clercs au sens où des privilèges leur sont accordés, des privilèges en tant qu'universitaires, en tant que membres de la communauté universitaire. Donc on a une situation où on a des moines bouddhiques d'un côté, on a des moines qui peuvent être dominicains ou franciscains de l'autre. De toute façon, on a des clercs qui se situent dans un environnement institutionnel, mais aussi un environnement, je dirais, symbolique et normatif comparable. Du point de vue des formes, d'une certaine manière, il faut mentionner aussi le primat, certainement, accordé à la dispute dans les méthodes d'enseignement, mais aussi les méthodes de recherche. Donc la dispute, sous des formes particulières, tant en Inde qu'en Occident médiéval, occupe une position dominante, tout comme d'ailleurs celle du commentaire. Donc, comme je l'ai dit, en l'absence des pèlerins bouddhiques chinois, il serait extrêmement difficile de se faire une idée des pratiques scolaires, de la culture intellectuelle, d'une certaine manière, du bouddhisme dans ces grands centres. La situation dans l'Occident médiéval est évidemment différente, puisqu'on a un grand foisonnement de sources qui commence évidemment par les statuts universitaires, les statuts des différentes facultés. Mais on a aussi évidemment des règlements et des descriptions qui proviennent de l'extérieur, au même titre que celles des pèlerins chinois sur les données indiennes. Et ces descriptions peuvent évidemment aussi concerner des faits, concerner au fond l'environnement dans lequel se déroulent les différentes pratiques intellectuelles, commentaires, disputes, etc. Et là, je ne résiste pas évidemment à citer un passage, ce sera le premier morceau anglais, James de Vitry, aux alentours de 1200, qui nous dit la chose suivante, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas sous la plume des pèlerins chinois, si je puis dire. « In one and the same house were a school upstairs and brothel downstairs. Upstairs the masters taught, downstairs the prostitutes exercised their depraved profession. On the one side the prostitutes quarreled intensely with the brothel keepers, on the other side the clerics shouted while disputing and acting in consent. » Ce passage m'a mis en joie durant un certain temps, donc je ne résiste pas à le signaler ici. Bon, un des acquis des recherches sur les pratiques intellectuelles du Moyen-Âge, donc du 12e, 13e, 14e siècle, durant, disons, à partir des années 50 en tout cas, c'est la question de l'origine au fond de la question et de la question disputée. Alors, il semble régner une certaine unanimité pour dire au fond que la dispute, qui est d'une certaine manière la forme, la disputatio, qui a plusieurs formes différentes sur lesquelles on peut évidemment revenir, que la disputatio procède ultimement ou dérive ultimement de la question, question disputée, qui elle-même dérive ou trouve son origine dans ce qu'on appelle la lectio. C'est-à-dire qu'ultimement, la dispute elle-même, qui est d'une certaine manière le théâtre, la forme, au fond, privilégiée et de l'enseignement, mais aussi de la recherche, et pourquoi pas de la polémique dans un contexte médiéval, que cette dispute s'ancre, s'origine dans le commentaire. La lectio, c'est le commentaire. La lectio, c'est véritablement la lecture, c'est-à-dire que l'on lit un texte, on commente, on explique un texte. Je cite ici, comme assez souvent d'ailleurs, Olga Weyers. J'aurais pu citer Marie-Dominique Chenu ou Philémon Glorieux, qui ont été de remarquables pionniers dans ces différentes recherches. Je cite Weyers d'abord parce que ce sont les travaux les plus récents et les plus autorisés actuellement, mais aussi parce que ce sont les seuls, parmi les seuls qui m'étaient accessibles en langue anglaise. Et Weyers dit donc la chose suivante concernant l'origine de la question. Qua estio ou questio, questio paraît plus fréquent dans les textes médiévaux. There seems to be no doubt that questiones developed out of commenting on basic texts during the lectures. The divergence or obscurity of the authoritative texts suggested that comparison and critical analysis, along with dialectic, was used. This provided the occasion for a discussion on the theological issue, in which dialectic played a role, a discussion about a question. The question here was thus initially a problem of interpretation. The master's role was to determine, determinatio, the question and to state the solution. And although the first questions are much older, the genre of disputed questions, so the questio disputata in theology, really dates from the beginnings of the 12th century. With the help of dialectic from Abelard onwards, the masters developed a complete method of teaching and research based on the systematic and well-organized discussion of such questiones. At the same time, the collections of sentences, the most famous was Pierre Lombard, established a form of systematic theology in which we also find questions arising from the discrepancies between authorities and being discussed with a certain amount of dialectical argumentation. Ce texte, en fait, situe remarquablement bien un certain nombre d'éléments qui entrent dans la configuration qui nous occupe, celle de la lectio, questio disputata, disputatio elle-même, et insiste d'une certaine manière, en tout cas à deux reprises, sur le fait d'abord que l'origine de la dispute tient à un problème exégétique, à un problème d'interprétation, et d'autre part que ce problème d'interprétation, ce thème exégétique liminaire, initial, entretient un rapport tout à fait privilégié avec la divergence ou la contradiction réelle ou supposée qu'entretiennent des autorités diverses, donc des autorités scripturaires diverses. Alors, on trouve un nombre considérable d'expressions du type de contradiction. La chose remonte évidemment à Boès et certainement plus loin encore à Aristote, notamment à la méthode dite des aporiai. Olga Weyers a montré quelle était au fond la généalogie de ce complexe. Donc Pierre Abelard, par exemple, dans le Sic et Non, qui est par excellence précisément le premier, sinon l'un des premiers textes précisément à opposer des autorités scripturaires patristiques une à une, qui paraissent d'une certaine manière se contredire, dit « Aliquex dissonantia quam haber evidento, questionem contrarentia ». Donc, certains aliqua, donc patrum dicta, donc des choses qui ont été dites, des dits des pères de l'Église, grâce ou par la dissonance qu'ils paraissent avoir, contrarentia questionem, qu'on peut traduire ici simplement par un verbe conjugué, give rise, enfin donne lieu à une question, dont on va disputer. Et la chose remonte évidemment, il y a un certain nombre d'extraits de Boès qui servent généralement à montrer la solidarité entre le motif chez Boès dans l'Antiquité tardive et au Moyen-Âge. Alors il dit notamment qu'une questio vero est dubitabilis propositio, donc une question est une proposition dubitabilis. Alors, non pas douteuse au sens évidemment où on pourrait témoigner du scepticisme à son endroit, mais plutôt parce qu'elle donne lieu d'une certaine manière à deux propositions contradictoires. C'est donc en ce sens-là qu'on a affaire à une dubitabilis propositio. Évidemment, tout ça se cristallise d'une certaine manière dans la forme canonique de la questio au Moyen-Âge, où la plupart sont formulées avec un utrum an, c'est-à-dire est-ce que ne pas. C'est-à-dire que la questio peut donc, on répond à une question par oui ou par non, par oui et par non. Alors cette structure de la questio, de la question, a été décrite assez régulièrement. First, the question, which could be answered by yes or no, was formulated, then arguments based on authoritative texts or on dialectical reasoning. Dialectical reasoning peut aussi recouvrir la notion de la ratio, qui est assez proche de la yukti, indienne. Parmi les sources autorisées, chose qui intéresse aussi évidemment le comparatiste, on cite aussi beaucoup dans les textes médiévaux l'experientia, donc l'expérience, en particulier l'expérience sensorielle directe et intersubjective que l'on peut avoir ou faire d'une donnée quelconque. Et là, on a évidemment, d'une certaine manière, 3D, pramana, régulièrement reconnu par les auteurs bouddhistes en particulier. Well. Next, the master provided a determinatio, determination or solution, that is the definitive answer to the question, along with the justification. And finally, there was a refutation, also given by the master, of the arguments given for the opposite position. Donc on a une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non, une première série d'arguments sic, une deuxième série d'arguments sed contra, c'est-à-dire que cette deuxième série d'arguments ne réfute pas la première série d'arguments, mais fournit des arguments en faveur de la thèse contraire, et ensuite le maître détermine, c'est-à-dire fournit sa solution, et c'est à lui qu'il revient en fait de réfuter les arguments de la première série, pro ou contra, donc les arguments contraires à sa position. Je passe ici un texte intéressant de Jean de Salisbury sur la fonction de la dialectique dans ce dispositif. J'en viens à la structure de la lectio, donc à la structure du commentaire. Évidemment, cette structure peut varier, mais d'après Weyers, elle prend la forme générale suivante. Commentaries in the form of lectiones, common in Paris from 1230 onwards, resemble the traditional literal explanations. They were divided into units of reading or lessons, lectiones, and each lectio had several fixed elements. And divisions of the commented passage into several sections or subsections are set out at the beginning of each lectio. The exposition or paraphrase, expositio or sententia in speciali, then follows. This is sometimes preceded by the sententia, in generali, alternatively called the intentio, in other words, the general meaning. These are things we should maybe keep in mind for what will come afterwards in the Indian parallels. So that the reader is given the broad sense of the passage before the commentary moves to literal analysis. The final section, sometimes following an ordo or ordinatio, describing the place of the passage within the text or the order of its part, contain the dubia or questiones, questions or uncertainties arising from the text, et en particulier, on y revient, la question de la contradiction entre des autorités entre des sources d'égale autorité ou d'égale autorité supposées, en tout cas. Ou autre description, usually in the 13th century, each lectio, which focused on a particular part of the text to be commented upon, involved different stages, the division of the passage into different sections, the literal exposition or paraphrase, often accompanied by the general meaning or intentio of the author, and finally the section given over to questions, les dubia or questiones, or sometimes dubitationes. Je voudrais maintenant passer au pôle indien de l'exercice comparatif. et interroger trois textes ou deux textes en particulier qui appartiennent à une tradition relativement homogène, qui est celle dite de l'idéalisme indien, non pas parce que les textes en question entretiendraient un quelconque rapport avec l'idéalisme comme position philosophique provisoire ou ultime, mais simplement parce qu'ils appartiennent à une tradition textuelle dont l'un des cœurs doctrinaux est précisément l'idéalisme. On se situe ici en deçà de l'idéalisme. Le premier de ces textes fait partie de la Yogacarabhumi. Alors, la Yogacarabhumi est un texte de nature extrêmement composite. Frau Wallner l'a démontré et Schmidhausen et ses élèves l'ont développé après lui. Donc c'est une œuvre de l'école idéaliste à ses débuts, disons ici en première approximation aux alentours de 300. Il y a plusieurs parties, plusieurs strates dans cette Yogacarabhumi. L'une d'elles, c'est ce qu'on appelle la Vivarana Sangrahani, c'est-à-dire le compendium qui concerne le commentaire. Donc il y a une partie de cette Yogacarabhumi qui touche en particulier à la question du commentaire. Et puis on a ensuite, aux alentours de 400, mettons, un texte absolument intéressant, absolument remarquable, malheureusement extrêmement peu étudié, encore que je pense que ces études sont en train de se développer, qui est la Vyakya Yukti attribuée à Vasubandhu. Et Vasubandhu, comme vous le savez, est l'un des plus formidables intellectuels qu'ait produit le bouddhisme indien, le bouddhisme tout court, un polygraphe remarquable, enfin qui a commenté un nombre considérable de choses, et qui a donc consacré à l'art du commentaire, à la Vyakya, ou Vyakyana, un traité indépendant. Ce traité, malheureusement, ne nous a été préservé qu'en tibétain, avec extrêmement peu de fragments. Fort heureusement, certaines des sources citées peuvent être identifiées, et l'ont été par des pionniers des recherches sur la Vyakya Yukti. Je pense en particulier à Cabethon, encore une fois, mais aussi à Peter Skilling, plus proche de nous, Toshio Horiguchi au Japon, mais aussi Richard Nance aux États-Unis, ont produit des contributions importantes sur la Vyakya Yukti. Alors la Vivarana Sangrahani s'ouvre au fond sur un vers, deux vers en particulier, qui explique, qui donne d'une certaine manière la table des matières de ce qui va suivre. Alors ne vous effrayez pas. What is the summary of explanation? A general account encompasses the corpus, phrasing, meaning, explication, teaching, prompt, meaning, responding to objections, c'est important, connection. Et ensuite, on a un certain nombre de considérations concernant le prédicateur, the Dharma preacher, the exposition, the assembly, donc la nature de l'assemblée, listening, brief and extensive praise of the Buddhas, reward of training. La traduction ici est de Richard Nance. L'intérêt se concentre ensuite sur les éléments centraux, ceux qui touchent à la Vyakya elle-même, au commentaire lui-même, à l'explication de texte lui-même, donc à ce qui tient lieu d'une lectio dans le contexte, dans le présent contexte. What is explication? To sum up, it should be known as having five aspects, donc les cinq aspects de la Vyakya qui deviendront canoniques, si je puis dire, standard en tout cas, the teaching, the prompt, the meaning, responding to objections and connections. Ou alors, dans une autre formulation un petit peu légèrement ultérieure dans le même texte, having first investigated the corpus of Buddha Vachana, one should seek out all ten forms of meaning, or whichever is suitable in the scriptural texts. Having done so oneself, one should teach these to others. Accordingly, a Dharma preacher should engage in the practice of teaching by explicating in five ways those sutras. Je passe quelques lignes. First, he should expound the teachings. After that, he should expound the prompt. After that, he should expound the meaning. After that, he should expound responses to objections. After that, he should expound connections. Alors, en quoi consistent les teachings? Ce sont c'est l'enseignement, enfin, c'est d'une certaine manière le canon bouddhique, donc la parole du Bouddha à 12 membres. Qu'est-ce que le prompt? Ce sont les motivations du prêche ou de l'explication, en particulier détourner du désir, instruire, mais aussi réjouir. Qu'en est-il de la signification? Alors, elle est de deux sortes, et là, on retrouve des choses qu'on a déjà rencontrées dans le dossier médiéval. Summary meaning and meaning of phrases, laquelle comprend en particulier literal explanation by indicating synonyms, the corpus, etymological derivation, and analyzing into aspects. Enfin, responding to objections et connection, c'est-à-dire syntactic and semantic homogeneity and completion. Alors l'aspect qui m'intéresse évidemment le plus ici, c'est la question du responding to objections qu'on voit ici aussi apparaître en queue de commentaires, c'est-à-dire qu'au même titre que la lecture se terminait sur des dubitationes ou sur des dubia ou sur des questiones, on a ici un certain nombre de questions et on a un certain nombre de réponses à des objections, d'objections et leurs réponses au terme du commentaire dans les procédures standards fixées par les exégètes indiens. On trouve effectivement un certain nombre de motivations, d'explications du pourquoi, au fond, des objections peuvent être levées et justifiées, au fond, des questions au terme d'un commentaire. La Yogacara Bhumi nous dit la chose suivante. Responding to objections. This involves responding to objections, whether the objections are expressed by oneself or by others. In brief, objections are of five kinds. Not understanding the meaning. Donc ça, c'est le type de confusion ou d'aspect peu clair, au fond, de l'explication qu'on a déjà rencontré. There is non-understanding of the meaning, where a person who has failed to understand inquires, what is the meaning of this phrase? Verbal contradiction, there is verbal contradiction, where it is objected that what is said by the Blessed One here, so by le Bouddha évidemment, contradicts what he previously said on another occasion, purva para viroda. Contradiction with reason, there is contradiction with reason, where a passage appears to contradict the four modes of reasoning. Je n'explique pas ce que sont les quatre modes de raisonnement, mais enfin, de toute façon, on verra que Vasubandhu travaille avec un concept différent de la rationalité. Celui-ci sera donc perdu, en tout cas dans ce contexte-là. Appearance in multiple parts, there is the appearance of one meaning across multiple parts of a text or text. As when one hears, the Blessed One taught this very meaning in this or that place with many synonyms. Enfin, extremely recondite teachings. Atyanta paroksha, donc radically imperceptible or obscure, whatever. Finally, one may encounter objections due to an extremely recondite teaching, that is, what is the inner self? Évidemment, pour un bouddhiste, on ne saurait trouver plus recondite. Does it exist, abiding as permanent, stable, eternal, and truly real? Si l'on se met en quête d'exemples, au fond, des objections, là, on a les motivations qui peuvent donner lieu effectivement à des objections, à des questions à la fin d'un commentaire. Si on se met en quête d'exemples, en fait, c'est du côté de la Vyakya Yukti qu'il faut se tourner, et en particulier dans sa doctrine des cinq aspects d'un commentaire ou d'une Vyakya. How should one discuss the sutras, donc les sermons du Bouddha? One should do so via five aspects. One should state the purpose of the sutra, the summary meaning, the meaning of the phrases, connections, and the two objections and responses. The two objections and responses are collapsed into one aspect since the responses offered pertain to the particular objections raised. From the connections, one may understand that the meaning of the phrases is sequentially non-contradictory. On trouve encore une fois cette insistance constante sur le caractère contradictoire ou non-contradictoire des autorités alléguées. From the objections and responses, one may understand that the text does not contradict reason. Donc un des aspects, c'est évidemment de possibles contradictions du texte commenté avec la raison, avec les lumières naturelles de la raison humaine. And that there is no contradiction between those texts that are earlier and later. Donc là, on traque également, évidemment, les contradictions internes à un texte. Donc je cite ici deux exemples. Combien de temps me reste-t-il?
3 minutes.
Formidable. Formidable. Allons-y. Donc l'un des exemples concerne internal contradictions, donc les contradictions internes à un texte. Donc c'est un exemple. Il y en a beaucoup, et un des aspects de ma contribution sera en particulier de les traduire et de les analyser, puisqu'elles n'ont pas été jusque-là, ou en partie seulement. Donc ça, c'est un premier essai. Among these, let us note on the objections pointing to internal contradictions. For example, somewhere the Blessed One speaks as follows. What is called the mind, what is called the internal organ, and what is called cognition, inasmuch as it perishes every night and day, and perishes at every moment, every second, every instant, is born again and again as another in many ways and in many respects. La chose n'est pas entièrement claire, elle est de toute façon peu d'importance. And disappears again and again as another in many ways and in many respects. But somewhere else, the Blessed One speaks as follows.
what is called the mind, what is called the internal organ, and what is called cognition, having been fortified over a long time by faith or belief, having been fortified by morality, generosity, and insight, goes upwards to its future, goes to distinction, and reaches heaven. Question: how can a momentary mind be said to go upwards in a future time? Ça, c'est un exemple. Évidemment, je ne donne pas la très longue réfutation de Vasubandhu. Autre type de contradiction interne. In the same way, the Blessed One says somewhere, in this world, human beings perform both meritorious actions and sins. They are appropriated by them, carried away by them, and cause them to transmigrate. But somewhere else, dans un autre texte, the Blessed One says, action exists, its maturation exists too, but an agent is not perceived, or does not exist. Formulation de type non pas la biaté. Of such a nature are objections pointing to internal contradictions. C'est la fin de la section consacrée aux contradictions internes. On passe à la définition du raisonnement pour Vasubandhu, puisque une autre série de contradictions heurtent donc le raisonnement, les lumières naturelles de l'esprit humain, encore une fois. In brief, we call reasoning, nyaya ou yukti. What we call reasoning consists here of the three means of valid cognition, le trividam pramanam, that is, perception, inference, and authoritative speech. Any objection pointing to contradictions with whatever is derived from these means of valid cognition must be known as an objection pointing to a contradiction with reasoning. Je pense vous épargner ce texte et surtout celui-ci. voilà. Je reviens dans les ultimes secondes qui me restent. D'abord, à évoquer la comparaison, enfin, l'analogie de structure qu'il y a évidemment entre les différents types de commentaires. Je ne cherche pas à l'expliquer, en tout cas, je ne chercherai pas à l'expliquer ici autrement que par le fait que des commentateurs peuvent simplement rencontrer des problèmes analogues. De toute façon, la question doit être posée plus largement. On a vu aussi que la disputatio, comme forme d'une certaine manière canonique et standard du développement de la philosophie, enfin, de la philosophie et de l'interrogation de la recherche en philosophie au Moyen-Âge, s'était émancipée d'une certaine manière du cadre strict de la lectio, d'après les spécialistes de la philosophie au Moyen-Âge, non seulement de la philosophie d'ailleurs, puisque la chose vaut aussi du droit et de la médecine. Je pense qu'on trouve quelque chose de tout à fait analogue en Inde, au fond, c'est-à-dire que les antécédents les plus clairs et les plus indiscutables de ce que vont faire Dignaga et Dharmakirti se trouvent dans la Vyakya Yukti. C'est en fait par la recherche ce qu'on pourrait appeler la Pramana Pariksha. Donc Dharmakirti comprend l'œuvre de Dignaga comme une Pramana Pariksha, donc un examen par les moyens de connaissance valides, en l'occurrence par les deux moyens de connaissance valides que sont l'inférence et la perception. Et Dharmakirti comprend évidemment, on peut le montrer très très clairement, sa propre entreprise philosophique de cette façon-là. C'est-à-dire qu'un dispositif, d'une certaine manière, qui trouve d'une certaine manière sa source et son plus ample développement dans une technique de commentaire, dans la compréhension d'une certaine manière du commentaire, en vient d'une certaine manière à s'émanciper, à se détacher et à former au fond le cœur d'une méthodologie philosophique. Le parallélisme me paraît relativement troublant. Je ne chercherai pas à l'interpréter davantage. Merci de votre patience.